VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. Au Gabon, deux hommes sont morts dans la nuit de jeudi à vendredi dans un quartier de Libreville, la capitale, à la suite d'affrontements avec les forces de sécurité. La première victime est un étudiant en droit de 27 ans, décédé des suites d'une blessure par balle à l'abdomen après son hospitalisation, selon l'AFP. Et dans le quartier de Nzengayong, un jeune homme a été tué par balle alors qu'il était assis devant chez lui jeudi soir, d'après une femme se présentant comme sa mère. Ces nouvelles victimes portent à 5 le nombre des personnes mortes dans les violences qui ont éclaté mercredi au Gabon après l'annonce de la réélection du président sortant Ali Bongo Ondimba face à l'opposant Jean Ping qui conteste les résultats de la présidentielle. La réélection contestée du président gabonais et les violences consécutives à la proclamation des résultats ont des répercussions dans les pays voisins, notamment au Cameroun. De nombreux Camerounais vivent et travaillent au Gabon. John Lindon a joint Yaoundé par Fessiki, journaliste et directeur de rédaction du quotidien de l'économie.
Il y aura forcément un impact dans notre pays. À l'approche de cette élection, beaucoup de Camerounais sont retournés dans leur pays à la suite des menaces et de la tension qui était dans l'air. Vous savez également que les Gabonais eux-mêmes ont dû se retrancher pour la plupart chez eux, faire des provisions en prévision de cette situation qu'ils imaginaient donc déjà explosive. Si cette tension qui commence à se manifester par les violents que l'on a pu voir continue, il y a une bonne partie de la diaspora camerounaise qui va être obligée de retourner au pays et probablement quelques Gabonais qui vont les suivre pour retrouver des terres un peu plus calmes.
Parfait, c'est qui, journaliste et directeur de rédaction du quotidien de l'économie à Yaoundé au Cameroun. Politique en RDC, ouvert officiellement le jeudi 1er septembre à Kinshasa. Les travaux du dialogue national vont se poursuivre ce week-end et devraient durer 15 jours. Hier, dans son discours aux participants, le facilitateur togolais Idem Kodjo, récusé par une partie de l'opposition congolaise, a réitéré sa neutralité. Et l'opposant Vital Kamerhe, désigné co-modérateur, a souligné la nécessité pour toutes les forces politiques du pays de participer à ces assises. Suivant le reportage de Dominique Dinanga de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
C'est un discours suivi avec attention par l'assistance que le facilitateur Edem Kodjo a prononcé à l'ouverture des travaux proprement dits du dialogue national. L'ancien premier ministre togolais a rappelé l'héritage laissé par Patrice Emery Lumumba à sa famille pour interpeller les Congolais à participer au développement. Accusé par le rassemblement de vrai pour la majorité présidentielle, Edem Kodjo a tenu à clarifier sa neutralité, insistant qu'il n'est pas venu à RDC pour défendre un individu ou une famille politique.
Je ne suis pas venu ici embrasser en particulier la cause de X ou de Y. Je ne suis pas venu ici pour me mettre à la disposition de causes partisanes. Je suis venu ici pour servir le Congo et pour servir l'Afrique. C'est la raison pour laquelle, très tôt dès ma nomination, je me suis lancé sans retenue dans le travail qui est celui du facilitateur.
Pendant que les rassemblements de nos voisins Étienne Tshisekedi et président du comité des sages boycottent ces forums, les leaders de l'Union pour la Nation Congolaise, Vital Kamerhe, étaient présents à l'ouverture du dialogue, à côté notamment de Sami Badibanga, président du groupe parlementaire UDPS et allié. Choisi comme modérateur du dialogue et chef de délégation de l'opposition, Vital Kamerhe a lancé un appel aux absents au dialogue à rejoindre le forum. Le président de l'UNC a inscrit ces dialogues dans l'esprit de la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU.
C'est le parti qui a dit non au dialogue, il n'y en a pas. Si c'est qui a dit, tout le monde a dit oui au dialogue. Mais le dialogue prévu par la résolution 2277. Au sein de l'opposition, dites-moi, un seul parti qui a dit que le président Kabila doit continuer après son mandat. Aucun parti. Au sein de l'opposition, est-ce qu'il y a un parti qui a dit que nous allons aller aux élections sans que nous remplissions les conditions pour ces élections? Mais pourquoi on a prévu le dialogue? C'est parce que nous avons alerté l'opinion internationale depuis très longtemps qu'il y a des tergiversations qui vont retarder le processus électoral.
Du côté de la majorité présidentielle, on estime que ces assises vont baliser le chemin pour de bonnes élections. Henri Movasakani est secrétaire général du PPRD, première force politique de la majorité présidentielle.
Préparons mieux l'élection afin qu'elle participe à faire une embellie qui continue, plutôt que de faire en sorte que l'élection soit une occasion de chute ou de retour en arrière par rapport à énormément d'acquis que nous avons, notamment la paix et la croissance économique et bien d'autres choses que vous constatez dans la gestion actuelle. Mais c'est tout simplement le fait que chaque mandat est remis en selle parce que le pouvoir appartient au peuple, qui en accorde l'exercice pendant un temps limité à un homme ou à un groupe d'hommes. Et donc, à chaque fois que vous reviendrez devant la population, vous êtes en situation d'alternance. Ça peut être vous-même, ça peut être le même groupe qui gagne, ça peut être le groupe d'en face. Et donc, c'est les jeux démocratiques.
Il faut noter que la journée de vendredi est consacrée à l'harmonisation des listes, notamment pour la composante société civile, et les travaux vont reprendre ce samedi. Kinshasa, Dominique Dinanga de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Niger, polémique à propos de la cession de terres cultivables dans la région de Diffa à une société saoudienne. Alors que les élus locaux ont donné leur aval, le gouvernement temporise à Niamey et des organisations de la société civile crient à l'accaparement des terres agricoles. Les précisions avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
La société saoudienne Al-Hurech est intéressée par 120 000 hectares. Meirou Malam Ligari, président du conseil régional de Diffa.
Nous apportons la richesse pour que cette population ne soit plus pauvre de ses potentialités. Parce qu'aujourd'hui, elle est pauvre de ses potentialités, qu'elle n'exploite pas.
Pour l'instant, selon des sources, le gouvernement a demandé aux deux parties de sursoir à une quelconque signature pour matérialiser le projet. Un collectif d'organisations de la société civile demande aux autorités nigériennes d'aller plus loin en faisant simplement arrêter le processus. Moussa Tiangari, secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen, une de ces organisations.
Ça va impacter les activités que les gens font, à savoir donc l'élevage qui est une des activités phares de la région. Donc les gens vont manquer d'espace. Au fond, c'est un projet fou.
Le collectif d'organisation de la société civile appelle alors à une grande vigilance contre l'accaparement des terres agricoles par des investisseurs étrangers. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Zimbabwe, la police a interdit les manifestations dans le centre de la capitale Harare jusqu'au 16 septembre. Plus de détails avec John Lyndon.
Cette décision intervient alors qu'un vent de contestation souffle depuis plusieurs semaines sur le Zimbabwe, dirigé d'une main de fer par Robert Mugabe au pouvoir depuis 1980. La fronde, conduite essentiellement par des groupes de la société civile, vise à dénoncer le régime Mugabe et la faillite économique de ce pays d'Afrique australe. L'opposition avait prévu des manifestations vendredi dans le pays pour réclamer des réformes électorales en vue des élections générales de 2018, un scrutin où Robert Mugabe compte se présenter pour sa propre succession. Mais elle a annoncé hier en fin de journée le report de ces rassemblements. Mercredi, un appel à la grève générale avait été très peu suivi, l'opposition justifiant la faible mobilisation par l'intimidation des forces de sécurité qui étaient déployées en masse dans plusieurs villes du pays. La semaine dernière, des échauffourées avaient éclaté entre manifestants et forces de l'ordre à Harare. Les quelque 70 personnes arrêtées à cette occasion sont toujours en détention.
En Somalie, les États-Unis ont identifié Abdul Kadir Mounine comme étant le chef de l'organisation État islamique en Afrique de l'Est. Mounine est né dans la région semi-autonome du Puntland dans le nord-est de la Somalie à une date indéterminée et a vécu notamment en Angleterre. Selon le département d'État américain, Mounine a récemment augmenté les effectifs de son groupe en kidnappant des jeunes garçons âgés de 10 à 15 ans. Qui l'endoctrine et oblige à mener des activités militantes. Mais l'organisation de Mounine demeure très réduite et isolée dans les montagnes gaullistes, ce qui lui a vraisemblablement permis d'échapper jusqu'à présent aux représailles de l'Amniyat, la branche des renseignements des islamistes somaliens Shebab, chargée entre autres de tuer dans l'œuf toute velléité d'implantation de l'État islamique en Somalie. Et puis l'ex-présidente brésilienne Dilma Rousseff, destituée par le Sénat au Brésil, a contre-attaqué et fait appel auprès de la Cour suprême brésilienne pour demander un nouveau procès et l'annulation de la sentence historique qui l'a écartée du pouvoir au terme d'une procédure hautement controversée. Son avocat et ex-ministre de la Justice, José Eduardo Cardoso, qui l'a défendu fermement depuis le début de la procédure, a exigé auprès du Tribunal suprême fédéral la suspension immédiate de la décision du Sénat qui a condamné Madame Rousseff pour crime de responsabilité. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.